du pouvoir, des homards et surtout de l'écologie. C'est un livre de combat et en même temps un témoignage personnel. Bonjour François de Rugy,
Bonjour.
merci de parler avec nous presque pour la première fois de votre livre. Vous dites que vous aimez l'océan. Lors de la crise que vous avez traversée, vécue, douloureuse sans doute pour vous, vous avez senti que vous étiez frappé par des vagues et encore des vagues. Mais apparemment, vous avez été emporté, mais pas noyé.
Oui, c'est un peu l'image que j'emploie, parce que je crois que c'est celle qui est la plus proche de ce que j'ai ressenti sur le moment et de ce que ressentent sans doute des gens qui subissent comme ça des attaques médiatiques extrêmement fortes, violentes même. Mais heureusement, on n'en sort pas
Vous avez survécu.
anéanti pour autant, voilà,
Oui.
heureusement. Et d'ailleurs, il faut relativiser aussi, hein. Il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves que ça.
Évidemment, mais vous dites bien, on comprend que le homard ne vous a pas tué, mais il vous a laissé des blessures.
Et malgré cette image qui a été employée
Dans d'autres
plus qu'il ne
circonstances.
le faut sur
À l'époque,
Internet.
c'était homard. Vous, c'est le homard. Bon,
Voilà, non, mais
il ne vous
c'est
a
vrai
pas
qu'on
tué.
pourrait parler du pouvoir des homards du pouvoir et ainsi de suite. La réalité, c'est que justement, dans ce livre, j'essaye de rappeler les faits, à la fois sur cette histoire, mais aussi plus généralement sur mon parcours, parce que je me suis rendu compte que moi, je n'avais jamais
On va
tellement
le
parlé
voir,
de
mais
moi.
vous dénoncez la cabale des homards. C'est qui la cabale des homards?
En tout cas, bon, on voit bien que c'était une opération qui a été menée pour essayer de m'abattre. D'ailleurs, malheureusement, ça a fonctionné du point de vue politique, pas du point de vue humain, heureusement, mais du point de vue politique, en effet, j'ai démissionné parce que j'ai considéré qu'à un moment donné, c'était plus possible d'exercer ma fonction de ministre
Mais
sereinement.
vous affirmez que vous n'êtes ni coupable ni victime, mais c'est vrai, comme
Oui.
vous le dites, que vous étiez ministre d'État numéro 2 du gouvernement, vous aviez lu, si je me rappelle bien, les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe au Sénat.
Quelques jours auparavant, oui.
Vous avez dû démissionner.
Oui, c'est la vie politique et médiatique qui a fonctionné comme cela, car je me demande si aujourd'hui il n'y a pas eu finalement une forme de reflux, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on devient un peu moins sous la pression du tribunal médiatique, en quelque sorte, et on voit qu'aujourd'hui des ministres, même mis en cause, restent en fonction, parce qu'après tout, ce n'est pas parce qu'on est mis en cause qu'on est coupable.
Vous racontez effectivement des étapes de votre vie. Vous rappelez que vos parents étaient des enseignants, qui ont été même coopérants en Algérie. Malgré votre nom, François Goulet de Rugy, vous dites, je suis pas un aristocrate.
Moi, je ne renie pas mes origines. Il y avait des gens qui m'avaient dit un jour, vous devriez changer de nom pour faire de la politique. Je dis non, moi, c'est le nom dont j'ai hérité par mes parents, par
Vous n'avez
mes
pas un
grands-parents, etc.
château,
Mais je n'ai jamais
un
mené la
grand
vie de château,
parc?
voilà.
Non,
Et je ne
moi.
suis pas né dans un château avec une cuillère en argent dans la bouche,
Oui,
comme on le dit
mais
souvent.
est-ce que vous n'avez pas trouvé la cuillère en argent, peut-être même en or, à l'Assemblée nationale, non?
Non, mais vous savez, quand on est président de l'Assemblée nationale, on est logé à l'hôtel de Lassay. C'est comme ça depuis que l'Assemblée nationale existe, c'est encore comme ça aujourd'hui, et ce sera sans doute comme ça longtemps, comme pour l'Élysée pour le président et Matignon pour le Premier ministre. C'est la tradition française.
Oui. Je passe sur le homard, la taille du homard, la photo, etc. Vous êtes entré en politique par l'écologie. Et vous dites que vous êtes moins bien à Paris qu'à Nantes, qui est devenue une ville de culture, mais qui a en mémoire le côté inséparable de la traite négrière. Et encore, en ce moment, il y a un colloque ou un congrès à Nantes sur l'esclavage et la traite négrière. Le 17 octobre 1961, c'est-à-dire 60 ans jour pour jour, Emmanuel Macron a reconnu hier des crimes, je le cite, des crimes inexcusables. Des crimes inexcusables pour la République. C'est la première fois qu'un président de la République fait un tel geste, souligné hier ici par notre ami Benjamin Stora, qui est le grand historien et le grand historien d'Algérie. Les réactions, on aurait pu les écrire hier. Les uns disent qu'il n'est pas allé assez loin. Maurice Papon n'était pas le seul concerné, bien que préfet de police. Et les autres, il est allé trop loin, etc. Même s'il n'y a pas eu d'excuses ou de repentance. Où vous situez-vous?
Moi, je trouve ça bien qu'un président de la République reconnaisse l'histoire. Je dis souvent, en matière d'écologie, qu'il faut s'appuyer sur la science. En matière d'histoire, il faut s'appuyer sur ce que disent les historiens. Ce n'est pas aux hommes et aux femmes politiques d'écrire l'histoire. En revanche, en politique, on a toujours, évidemment, parlé d'histoire, parce que c'est parler de la France que de parler de son histoire.
Oui, mais
Et évidemment, l'histoire n'est pas
est-ce qu'il est
blanche ou
allé trop
noire.
loin? Est-ce qu'il aurait dû dire crime
Non.
d'État ou sorte de crime d'État?
Souvent, les choses se font par étapes. On le sait bien, la reconnaissance historique qui ne vaut pas repentance. Moi, par exemple, ma génération, je ne vois pas pourquoi elle s'excuserait de ce qui s'est passé à cette époque-là. Nous ne sommes responsables en rien de ce qui s'est passé. De même qu'on ne va pas accabler le général de Gaulle en disant quel scandale, ça anéantit tout ce qu'il a fait par ailleurs. dictateur. Le général de Gaulle, c'est lui qui a fait l'indépendance de l'Algérie. Alors que quand il est arrivé au pouvoir, on pensait qu'il ferait plutôt l'inverse. Et
Avait reproché lui-même des débordements à Maurice Papon, qu'il l'a reconnu hier dans une interview que j'avais faite en 1991.
Voilà, et ça, c'est intéressant parce que c'est l'histoire.
Oui. Bertrand Delanoë estime, c'est l'ex-maire de Paris, que hier, Emmanuel Macron a fait une initiative majeure et historique. Et en démocratie, cité Pierre Mendès-France, un grand exemple, seule la vérité l'emporte. Voilà pour l'histoire. Pour vous...
Espérons que ce soit toujours vrai et dans tous les domaines, seule la vérité l'emporte.
Jeune député, François Drugy, président de l'Assemblée nationale, ministre de l'écologie, vous succédez au départ précipité de Nicolas Hulot. Au début, vous dites que vous le guidiez, vous l'aidez, sans avoir d'affinité avec lui. Vous dites qu'à ses yeux, il n'y a que lui qui compte.
En tout cas, c'est vrai que j'ai été frappé que lors de la passation de pouvoir, je raconte ce moment parce que c'est toujours important, on passe d'un ministre à un autre et symboliquement, il y a cette passation de pouvoir où il verse une larme. Et en fait, il verse une larme sur le fait, il dit, mais les gens auraient pu me témoigner leur soutien, presque leur amour, pendant que j'étais ministre plutôt que lorsque je démissionne, c'est-à-dire quelque chose de très auto-centré. Bon, moi, j'aurais souhaité qu'il poursuive son action dans la durée, parce que je crois qu'en matière d'écologie, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, il faut agir dans la durée. Les défis sont tellement lourds à relever, et il faut les relever, absolument. Ouais, vous, il faut commencer dès maintenant, mais il faut le faire avec un peu de continuité dans l'action.
Vous racontez que le président de la République, à ce moment-là, vous avez confié... qui ne savait pas, lui, Emmanuel Macron, combien de temps ça durerait avec
Quand il l'a nommé.
Hulot. Il n'avait pas d'illusion. Et vous ajoutez, en moins de 10 ans, Hulot a évolué vers une écologie de plus en plus radicale, messianique, quasi religieuse.
C'est ce que je crois beaucoup de gens ressentent, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, et c'est assez frappant de voir l'évolution de sa fondation d'ailleurs. Sa fondation au départ, il l'a créée pour faire de l'éducation à l'environnement avec le soutien d'entreprises privées. Il est critiqué d'ailleurs pour cela, et petit à petit finalement, il va plutôt vers une association un peu de combat, et qui est là pour dénoncer ou pour simplement promouvoir des idées, et n'est plus du tout dans l'action avec les citoyens.
Le seul service ou le principal service qui vous a demandé, d'après vous, hein, c'est le retour de l'ours dans les Pyrénées. Assez vite, vous quittez les Verts, François Drugy, emporté, vous dites, par une dérive gauchiste trop rouge. Aujourd'hui encore ?
Je crois que tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ce que je dis dans le livre et ce que j'avais dit il y a 6 ans dans un autre livre se vérifie. C'est-à-dire quand vous voyez les débats qui ont eu lieu entre Madame Rousseau, par exemple Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, vous dites que c'est vraiment la course à la radicalité qui est en train d'emporter ce mouvement qui pour moi a pris en otage l'écologie dans le débat politique français. Et il faut absolument maintenant assumer qu'il y a plusieurs visions de l'écologie. Et moi, j'en développe une dans ce livre qui est fondée sur la science et le progrès.
Les Verts, qu'est-ce que vous voulez matraquer ? Vous dites, j'ai vu les Verts se transformer en une officine gauchiste, en une entité politique de toutes les peurs. C'est le cartel vert. Le cartel comme les mafias. Le cartel vert.
On disait le cartel des gauches, vous savez, sous la Troisième République. Donc c'est une expression qui s'emploie aussi en politique pour dire que des gens entre une organisation politique, Europe Écologie Les Verts, et des associations, pas toutes, mais quelques ONG très visibles, très médiatiques, comme Greenpeace par exemple, eh bien en effet, développent une vision de l'écologie. D'abord qui n'est faite que sur la dénonciation, la protestation, l'opposition, hein, c'est un peu les anti-tout. Et puis qui, en plus, se déconnecte complètement de la science, ce qui est mortel pour l'écologie.
Mais
il faut absolument s'appuyer sur la science.
Vous dites ça parce que leurs propositions ne vous conviennent pas ?
Non, je dis ça parce que je vois comment le débat politique sur l'écologie, aujourd'hui, il est complètement fixé, si je puis dire, les termes sont fixés par, en effet, le parti et les associations qui forment ce cartel vert.
Justement, vous tirez à boulets verts sur les ONG. Greenpeace, vous l'avez dit à l'instant.
On pourrait dire à boulet rouge, parce que souvent, ils sont plus inspirés par l'extrême gauche que par l'écologie.
On l'a souvent dit, les pastèques, vert à l'extérieur, rouge dedans. Vous en faites des ONG, des charlatans de l'écologie. Pourtant, vous reconnaissez que les ONG inspirent les décisions des gouvernements, comme s'ils faisaient pression sur eux. Et vous dites qu'il ne faut pas trop les écouter. Et il ne faut pas écouter davantage Greta Thunberg, parce qu'elle dit « Je ne veux pas de votre espérance aux jeunes, je veux votre peur. »
C'est dramatique. C'est dramatique qu'une jeune femme dise cela à des jeunes. C'est-à-dire que là, c'est vraiment en quelque sorte faire commerce de la peur et considérer que le seul moteur de l'action politique et du débat politique, c'est la peur. J'ai entendu Sandrine Rousseau aussi parler de l'éco-anxiété. Donc elle cultive cette éco-anxiété. Il faut absolument, au contraire, dire que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, notamment sur ce défi du climat ou sur celui de la biodiversité ou sur celui de l'eau, sur l'adaptation au réchauffement climatique.
Une économie de la croissance et du progrès et pas de la régression.
Oui, moi je pense qu'on doit s'appuyer sur trois piliers. La recherche scientifique, l'innovation technologique et le développement économique. Et c'est la combinaison des trois qui permet de relever les défis
Alors,
écologiques.
Yannick Jadot, vous le trouvez aveuglé par son opposition systématique à Emmanuel Macron. Et vous ajoutez cette confidence de Nicolas Hulot, Jadot, c'est le pire.
C'est ce qu'il m'avait dit, oui, parce qu'il trouvait que c'était lui qui, dès le début, l'avait attaqué sans relâche et avec une mauvaise foi souvent considérable. Il a continué. Bon, ça lui a permis peut-être de prendre une forme de leadership.
Vous le voyez au deuxième tour, la
le mouvement écologique. Absolument pas. Non, alors là, mais pas un instant. Je crois que c'est ça, d'ailleurs, le problème aussi en France des écologistes, c'est qu'il n'y a pas cette réelle volonté d'exercer les responsabilités. Parce que quand on exerce les responsabilités, on se confronte aux réalités qui sont évidemment plus complexes que quelques slogans simplistes.
Et est-ce qu'Anne Hidalgo devrait se rallier à Yannick Jadot?
Mais demandez-lui.
Non, mais bon,
moi, ce que je crois
sur
surtout, non, mais ce que je crois surtout, c'est que beaucoup d'électeurs, on va dire sociaux-démocrates, de centre-gauche, ils votent pour Emmanuel Macron. Ils l'ont fait en 2017 et sans doute qu'ils le feront en 2022. Et nous allons travailler d'ailleurs à les convaincre que la politique que nous avons menée depuis bientôt 5 ans est à la fois une politique équilibrée entre l'économie, le social et l'écologie.
Vous dites le seul qui aura le courage de décider des mesures les plus douloureuses qu'il va falloir prendre. Et comme il a fait pour la pandémie, c'est Emmanuel Macron. C'est
oui, je normal, crois qu'il y a un parallèle assez fort entre ce qu'on a fait dans la gestion de la pandémie et ce qu'on peut faire pour l'écologie.
Et vous dites que les solutions ne viendront pas d'une socialiste, pas d'un Vert, pas de Marine Le Pen ou Éric Zemmour, pas de Xavier Bertrand et Michel Barnier. Vous n'entendez pas assez parler d'écologie.
Même pas du tout. Alors là, c'est sûr que Xavier Bertrand ou Éric Zemmour ou Marine Le Pen ne parlent quasiment jamais d'écologie.
Attendez,
ça, c'est assez frappant.
La campagne ne fait que commencer.
Si mais quand même, vous voyez bien quelles sont les thématiques qui sont mises en avant. Même Michel Barnier, on a oublié qu'il a été un ministre de l'Environnement à une époque. Il n'en parle jamais. C'est quand même dommage. Moi, je trouve que ces sujets-là, tout le monde devrait s'en emparer et dire « voilà ce que je ferai si je suis élu président de la République ».
Je note que pour vous, il devrait y avoir plutôt le PS devant et Jadot derrière.
Oh non, mais ça, c'est aux électeurs de décider.
Ou
non, moi, ce qui me frappe, c'est que les deux partis, PS et Europe Écologie Les Verts, dans l'opposition depuis 4 ans et demi, n'ont développé en réalité aucune proposition. Ils se sont opposés, systématiquement. Ah ça, oui, opposés. Je le vois à l'Assemblée nationale. Mais en revanche, en termes de proposition, quand vous vous rendez compte qu'une candidate d'un parti qui a dirigé la France, le Parti Socialiste, en est simplement à lancer sa campagne autour du doublement du salaire des enseignants ou de la baisse de la vitesse sur les autoroutes, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas en termes de préparation à l'exercice des responsabilités.
Vous dites que l'écologie doit être défendue par tous les partis, on n'a pas besoin d'un parti vert.
En tout cas, je souhaite que vraiment l'écologie infuse l'ensemble des mouvements politiques et qu'un parti à vocation majoritaire, comme par exemple le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, eh bien en effet se saisisse pleinement, ce qui n'a peut-être pas été assez fait d'ailleurs, je le dis aussi, depuis 4 ans et demi. Et moi je souhaite qu'on assume cette écologie de progrès que je développe dans ce livre.
François de Rugy-Lénine dit l'écologie c'est la sobriété plus l'électricité. C'est-à-dire que vous dites oui aux renouvelables. Mais pas à 100%, et vous croyez plus qu'avant, apparemment, à la nécessité durable de l'énergie décarbonée du nucléaire. Alors une question, est-ce qu'il faut arrêter de fermer les centrales nucléaires ?
En tout cas, on ne peut pas dire la première priorité, si on veut relever le défi du climat, la première priorité, ça ne peut pas être de sortir du nucléaire. Il faut évidemment dire la première priorité, c'est le climat. Et si on dit cela, il faut en tirer une conclusion concrète pour la France, mais aussi pour l'Europe et le monde, c'est que le nucléaire peut avoir son utilité. Et en France, on construit quelque chose d'original et d'efficace, c'est nucléaire plus énergie renouvelable. Et en tant qu'écologiste, on devrait reconnaître que c'est la bonne combinaison pour avoir une électricité zéro CO2. Parce qu'en France, on va arriver à ça. On va être le seul pays d'Europe qui va arriver à cela.
Surtout
et
que les
c'est
prix
quelque chose qui va pouvoir
monter,
servir dans le reste de l'Europe.
Alors qu'il y a une demande très forte et qui va encore croître de l'électricité et du monde
oui, la consommation d'électricité va augmenter dans le futur avec les voitures électriques et avec d'autres usages.
Essayez de convaincre votre amie Barbara Pompili.
Je vois qu'elle évolue déjà un petit peu dans l'exercice des responsabilités.
Elle évolue. Vous lui dites, évolue, Barbara.
Du gouvernement, mais je vois que les décisions du gouvernement auquel elle appartient sont des décisions qui sont assez claires sur cette mixité entre nucléaire et énergie renouvelable.
Deux questions et on s'en va. Vous confirmez que l'an prochain, en juin 2022, vous ne vous présenterez pas comme député?
Oui, je confirme ce que j'avais dit en 2017, d'ailleurs, troisième et dernier mandat. C'est déjà pas mal, trois mandats à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas s'accrocher
dans la vie politique. C'est définitif ou c'est retenez-moi ou...
Non, c'est un engagement clair que j'ai pris et que je réitère.
Oui, vous avez toujours rêvé de naviguer, si j'ai bien compris, d'être marin-pêcheur. Eh bien, ce sera peut-être...
C'est mon rêve d'enfant.
Voilà, ben voilà peut-être l'occasion de faire votre rêve.
C'est un peu tard pour faire l'école de la marine marchande.
Aider les pêcheurs contre Boris Johnson et peut-être aussi pêcher des homards. Merci
On
d'être venu.
On peut en pêcher sans
Merci
en manger.
Merci d'être venu, François de Rugy, du pouvoir des homards et surtout l'écologie.
Merci.
Très intéressant. Surtout la partie sur l'écologie.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup Jean-Pierre Elkabbach, merci à vous François de Rugy et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette matinale week-end CNews et Europe 1. À la semaine prochaine, d'ici là, profitez bien de votre dimanche. Bonne journée à vous.